Vous écoutez CILS FM,
la voix de votre communauté. Ici Mireille, tous les matins de semaine de 8h à 9h, je vous invite à vous réveiller du bon pied avec votre émission matinale à l'antenne de CILS FM.
Bonjour Victoria, bonjour à tous les auditeurs francophiles et francophones de CILS FM 107,9. Il est 16h, nous sommes le 21 juin, solstice d'été et journée nationale des autochtones. Merci de vous joindre à nous en cette belle journée. Il sera d'ailleurs question de cette journée nationale des autochtones un peu plus loin dans l'émission. Pour l'heure, on va écouter dans quelques instants les bulletins d'infos de notre collaborateur Denis Lépine. On se retrouvera ensuite dans quelques minutes avec les infos provinciales et régionales. Vers 16h40, je vous mentionne qu'on aura l'interview du jour. Elle sera consacrée à la Saint-Jean-Baptiste et à une activité originale que vous pourrez faire pour la célébrer cette année. J'aurai en effet en interview deux excellents danseurs de tango qui nous visitent de Montréal. Restez donc à l'écoute. On est ensemble jusqu'à 17h. Le débrief est rendu possible grâce au soutien du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info Éducom national international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. Santé Canada vient d'approuver une proposition présentée par la Société canadienne du sang. La société aurait la permission maintenant de revoir les politiques actuelles à l'égard du don de sang par les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Le Canada imite ainsi la France, les États-Unis, l'Écosse et l'Angleterre, de même que l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Santé Canada a indiqué dans un communiqué que les données étudiées permettent d'aller dans cette direction sans compromettre la sûreté du sang au Canada. Il s'agit de relations entre deux hommes à l'intérieur d'une période bien précise. Eh bien, ça se poursuit du côté de Montréal, cette 29e édition du Symposium mondial des véhicules électriques. Plusieurs conférences et présentations ont eu lieu depuis le début du symposium dimanche. Depuis 1969, eh bien, le symposium rassemble des chefs de file mondiaux issus de l'industrie, des gouvernements et des universités dans le but de discuter des questions techniques, politiques et économiques touchant l'électrification des parcs automobiles. L'événement se termine demain. Des navires canadiens effectueront au cours des prochains jours une tournée de 2 semaines dans des villes portuaires canadiennes situées le long de la voie maritime du Saint-Laurent et dans les Grands Lacs. La seconde moitié de la tournée des Grands Lacs aura lieu en septembre. Au cours de cette tournée, bien les navires de la Marine royale canadienne vont effectuer des exercices afin d'améliorer la disponibilité des équipages. Selon le ministère de la Défense, bien cette tournée permettra à la population canadienne d'en apprendre davantage au sujet de la Marine et de ses divers rôles. La ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, Bardish Jagger, prononcera une allocution ce soir à Ottawa. Elle prendra la parole à l'occasion d'une réception officielle organisée par la Chambre de commerce indo-canadienne d'Ottawa. L'événement doit débuter à 20h et aura lieu à l'édifice Sir John A. Macdonald. Comme prévu, les autorités américaines ont rendu public des extraits écrits des dernières conversations téléphoniques entre Omar Mateen, le tueur de la fusillade d'Orlando, et la police. Selon les transcriptions dévoilées par le FBI, eh bien, le tueur se présentait comme un soldat islamique. Il exigeait aux négociateurs de la police que les États-Unis cessent de bombarder la Syrie et l'Irak. Un agent du FBI a déclaré aux médias que les propos vous glacent le sang et sont sans vie. Toujours aux États-Unis, coup de théâtre dans le camp de Donald Trump. Ce dernier a remercié de ses services son chef de campagne, Corey Lewandowski. Les raisons qui expliquent la décision de l'homme d'affaires n'ont pas été révélées. Lewandowski s'était retrouvé, on rappelle, au centre d'une controverse il y a plusieurs semaines pour avoir prétendument bousculé une journaliste. Dossier des visas mexicains au Canada, John McCollum, le ministre de l'Immigration, a déclaré lundi qu'il reste encore des détails à revoir. Il a tenu à dire aux médias qu'aucune décision finale n'a encore été prise par le Conseil des ministres. Selon l'Agence canadienne d'évaluation environnementale, eh bien la conviction selon laquelle un environnement sain et une économie vigoureuse sont essentiels pour la santé et le bien-être des Canadiens est fondée. Et à ce sujet, Dominique Leblanc, le leader du gouvernement à la Chambre des communes, a lancé un examen exhaustif des processus environnementaux et réglementaires. Le ministère a précisé que l'examen portera entre autres sur le rétablissement de la confiance à l'égard des processus d'évaluation environnementaux. Journée nationale des Autochtones au Canada. Aujourd'hui, il s'agit du 20e anniversaire de l'événement annuel. Perry Bellegarde, chef national de l'Assemblée des Premières Nations, a dit que les peuples autochtones se réunissent pour souligner leur force et résilience collective. Perry Bellegarde a mentionné également que c'est en 2013 que l'Assemblée générale des chefs de l'Assemblée a adopté une résolution exigeant de renommer ce jour Journée des peuples autochtones et de le déclarer fête nationale. Au sport, eh bien, le conseil municipal de la ville de Calgary a donné son aval pour dépenser une somme de 5 millions de dollars qui sera dédiée à un comité d'exploration afin d'étudier une éventuelle candidature pour les Jeux d'hiver de 2026. Calgary était devenue en 1988 la deuxième ville canadienne après Montréal à présenter des Jeux olympiques. Baseball majeur maintenant, ce soir, l'Arizona sera à Toronto. Au hockey, rappelons qu'à trois jours du repêchage amateur, eh bien, Toronto a échangé son deuxième choix de l'Ancan 2016, le 30e au total, aux Ducks d'Anaheim. Les Leafs reçoivent en retour le gardien de but Frédéric Anderson. Et au football canadien, les Argonauts de Toronto ont mis sous contrat le vétéran receveur Larry Taylor. Taylor en sera à sa 8e saison dans le circuit canadien après des arrêts à Montréal et Calgary.
C'était les bulletins de notre collaborateur Denis Lépine. Merci d'être à l'écoute de CILS FM 107,9. Vous êtes dans Le Débrief, votre rendez-vous d'infos en fin de journée, tous les jours du lundi au jeudi. On va passer maintenant aux nouvelles provinciales. En environnement, on a une nouvelle qui est très locale. Elle concerne Victoria et le port de Victoria en particulier. C'est une nouvelle qu'on aperçoit dans différents médias et principalement sur le site de Radio-Canada, de l'électricité pour réduire la pollution des bateaux au port de Victoria. L'autorité portuaire du Grand Victoria reconsidère l'ajout de courant électrique au terminal Ogden Point afin de permettre aux bateaux de croisière de se brancher et de couper les moteurs pendant qu'ils sont amarrés. L'idée qui permettrait de réduire le bruit et la pollution avait été étudiée il y a quelques années, mais elle avait et finalement été jugée trop coûteuse. Toutefois, les activités ont depuis augmenté au port et l'objectif de retenir les bateaux plus longtemps dans la ville a aussi été mis de l'avant. Une nouvelle technologie est disponible et je pense qu'il nous incombe de considérer toutes les options, a déclaré Ian Robertson, qui est le PDG de l'autorité portuaire ici à Victoria. Il a ajouté que les changements nécessiteraient la participation des gouvernements. Port Metro Vancouver a été le premier port au pays à utiliser cette technologie en 2009 et soutient avoir réduit de 2656 tonnes les émissions de dioxyde de carbone depuis. Les résidents du quartier James Bay, qui se trouve près du terminal Ogden, demandent depuis longtemps des initiatives pour que les émissions de gaz soient réduites. Une pétition circule d'ailleurs pour demander l'installation de l'alimentation électrique à quai. C'est encourageant dans le sens qu'il l'envisage, a lancé Luke Wilson, un membre du groupe Save James Bay. Nous serions encore plus encouragés si une date pour la mise en place était fixée. L'autorité portuaire prévoit donner plus de détails sur les changements proposés à Ogden Point lors d'une rencontre publique qui aura lieu demain, mercredi 22 juin. On parle à présent des inondations de Peace River. Il y a un petit peu d'espoir pour les victimes de ces inondations des quelques derniers jours. Les victimes donc du district de Peace Peace River pourront bénéficier d'aide financière d'exception. C'est maintenant confirmé. Les résidents de communautés victimes d'inondations dans le nord-est de la Colombie-Britannique prennent des dispositions pour demander une aide financière. Des assemblées citoyennes se sont tenues cette semaine à Dawson Creek et Chetwynd cette semaine, donc, afin de diffuser l'information se rapportant à ces demandes. Une aide financière en cas de catastrophe est disponible pour les propriétaires et locataires, ainsi que pour les petites entreprises, exploitations agricoles, organismes de bienfaisance et municipalités qui n'ont pu obtenir le soutien de leur assureur suite à ces inondations. Le programme, qui est administré par Emergency Management BC, couvre 80% du total des dommages entre 1 et 300 000 $. Les résidents de la zone sinistrée dans le district de Peace River y sont éligibles. Cela comprend les communautés de Dawson Creek, Chetwynd, Fort St. John, Hudson's Hope, Pouscoup, Taylor, Tumbler Ridge, Soto et West Moberly. Mentionnons que le ministre des Transports de la Colombie-Britannique, Todd Stone, a indiqué aujourd'hui, mardi, que les travaux de réparation des routes du secteur se poursuivaient à bon rythme. 5 des 6 routes qui étaient bloquées suite aux inondations ont pu rouvrir. La route 97, quant à elle, devrait pouvoir rouvrir dans quelques jours. On estime qu'elle sera ouverte en partie samedi. Autrement, encore une fois, dans la région du Grand Victoria, on a un nouveau centre de recherche qui ouvre ses portes. L'Agence du cancer de la Colombie-Britannique, la BC Cancer Agency, a ouvert cette semaine un nouveau centre de recherche et de traitement à Victoria. Selon les responsables de cette agence, le centre sera le chef de file des laboratoires d'innovation en thérapie cellulaire au Canada. Les chercheurs de ce centre vont commencer en 2017 à tester leurs recherches et productions en thérapie cellulaire en vue d'essais cliniques, notamment pour ce qui concerne les cancers des ovaires et les cancers du col de l'utérus. L'inauguration de ce centre de recherche a été rendue possible grâce à un don de 2 millions de dollars versé par la famille Conconi, qui a inspiré à son tour de nombreux donateurs de Colombie-Britannique à contribuer par la suite. On parle encore des attaques de pitbull. Il en était question hier dans le débrief. Je vous avais cité quelques passages d'un éditorial signé par Pascal Breton dans le journal La Presse. C'est un dossier qui concerne toutes les provinces. Il y a eu une série d'attaques ici en Colombie-Britannique et on en a fait l'expérience encore. Une énième attaque de pitbull a été constatée hier en Colombie-Britannique. À Surrey, une dame de 65 ans a été transportée à l'hôpital dans un état grave après avoir été attaquée par un chien pitbull. La police indique que la femme s'est fait assaillir sans provocation préalable par un pitbull sans laisse et l'animal était de couleur gris et blanc. Une vidéo de la victime recevant les soins des ambulanciers a circulé sur le web. Ni le chien ni son propriétaire n'ont pour le moment été retrouvés. La police cherche à savoir si le propriétaire a pris la fuite. Le poste de la GRC de Surrey demande aux citoyens détenant des informations de la contacter ou de contacter Crime Stoppers. On va se pencher vers la météo. On a une très belle journée, jour le plus long de l'année ici, 21 juin, journée nationale des Autochtones. Par ailleurs, on a eu une très belle journée aujourd'hui. Quelques nuages, rien de trop grave. On a 19 degrés actuellement. Ça va rester dégagé essentiellement en cours de soirée. Il y a une petite probabilité d'averse de 30% pour la soirée ce soir, donc en soirée. Autrement, mercredi, demain, 22 juin, on nous annonce une journée nuageuse avec une probabilité d'averse de 30%, un maximum de 19. Pour jeudi, même topo, les nuages avec une probabilité d'averse un peu plus élevée, 60%, avec un un maximum de 19 degrés. Et si on regarde un peu plus loin pour la Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin, on a une journée nuageuse, encore une fois, avec 40% de probabilité d'averse, un maximum de 19. On reparlera dans cette édition du débrief tout à l'heure de la Saint-Jean-Baptiste, puisque j'aurai une activité à vous proposer, une activité de tango. Et en interview, j'aurai deux professeurs de tango francophones qui nous visitent pour donner une session de formation pour débutants, un cours de débutants qui sera donné donc à l'occasion de la Saint-Jean-Baptiste. Alors, on en reparle un petit peu plus tard dans l'émission. Pour l'instant, on va écouter l'artiste Samian avec la pièce « Enfant de la Terre ».
Samian, DJ Org, ben relax, on rock shack. J'ai plus d'un tour dans mon sac, j'ai plus d'une corde dans mon nappe. Y'a des soirs, on débarque, j'rappe, on pète la baraque. Avec le Ben, avec nos fans, dans le fin fond des réserves les plus res. Damn, c'est pour l'amour du hip-hop, c'est pour les fans qui me supportent, c'est pour ceux qui comprennent le message que je porte. On est peu nombreux, mais si courageux, le poing dans les airs. J'lâche pas le combat, moi j'fonce dans le tas comme un soldat. Ici bas j'ai un mandat, passe à passe sur mon chemin de croix. Mais ça passe, n'est pas mon choix. Quand j'rappe, j'éclenche des débats et j'retourne aussi loin qu'à l'époque des Incas. Pas besoin de te répéter que le monde est ingrat. On m'a donné un rôle sur du rap and roll. J'porte un fardeau, d'un gold model. C'est pour les miens, les miens. Yo,
I make music for my people, my people.
On m'a donné un rôle sur du rap and roll. J'porte un fardeau.
My people, my people.
Ma plume est déguisée, je rappe pas pour me valoriser, ni pour rivaliser, je rappe pour m'immortaliser. J'ai pris conscience de la portée de ma voix. Mon rap parfois frappe, laisse des coups d'éclat. Je déteste les rappeurs qui racontent du charabia. Moi je prône le changement, je rêve d'un coup d'état. À contre-courant, j'avance à contre-sens, je viens faire taire les ignorants qui se taisent en ma présence. Je suis au sommet de ma forme, je te parle comme un homme. 7ème ciel record, y'a un rappeur autochtone. Et ça vient du fond du cœur, les discours que je révèle. Et c'est à cœur ouvert que les miens s'en relèvent. On est parti de rien, on revient de loin. Je me suis remis à l'écriture pour venir faire le point. En l'année des one mic comme nage, prends le mic comme d'hab. Troisième album sur la table.
On m'a donné un rôle sur du rap and roll. Je porte un fardeau d'un gold model. C'est pour les miens, les miens. Yo, I make music for my people, my people.
On m'a donné un rôle sur du rap and roll. Je porte un fardeau d'un gold model. C'est pour les miens, les miens.
Je garde autour de moi et ça m'arrive de m'enrager. Mais je viens dénoncer, t'es le rappeur engagé. Je suis fidèle à moi-même, je prétends pas à triompher. Je rappe à cœur ouvert, avec ou sans trophée. Je sais que mon rap dérange, mais qu'est-ce que tu veux, ça me démange. Je le fais pour les miens, j'ai une cause à défendre. Et je fais pas l'unanimité, j'ai trop d'humilité. Je suis prêt à militer pour les miens, l'humanité. Je me tiens debout, je prête à prendre des coups. Je me dévoue à mon art avec des mots qui peuvent te faire perdre le pouls. Je ne change pas, j'évolue mes mots, ont du contenu mes mots. On t'a vécu, chaque fois du rap de pendu. Regarde où je suis rendu, c'est sans prétention. On a fait le tour du monde, transporté par le son. Et je représente toujours les miens, malgré moi c'est mon rôle. Yo, I make music for my people, my people.
On m'a donné un rôle sur du rap and roll. Je porte un fardeau d'un gold model. C'est pour les miens, les miens. Yo,
I make music for my people, my people.
On m'a donné un rôle sur du rap and roll. Je porte un fardeau d'un gold model. C'est pour les miens, les miens.
For my people, my people.
L'artiste l'artiste Samian dans l'émission Le Débrief. Samian, bien sûr, membre des Premières Nations, artiste, auteur, compositeur, interprète, originaire du Québec et membre des Premières Nations. C'est justement la journée des Premières Nations aujourd'hui, solstice d'été. On a bien sûr focalisé là-dessus un petit peu dans cette édition du Débrief. C'est la nouvelle du jour. La première journée nationale des Autochtones a été célébrée le 21 juin 1996, donc l'événement fête cette année, ses 20 ans. Je vous avais mentionné dans une précédente édition ce texte d'un paru dans Rabble.ca. L'auteur voulait que cette journée nationale devienne fériée. C'était la semaine dernière dans le Débrief, un excellent argumentaire, un excellent plaidoyer en faveur d'une journée fériée chaque 21 juin pour la journée nationale des Autochtones. Donc, je vous le disais, cette journée nationale des Autochtones est fêtée depuis 20 ans. Il y a un article sur le portail de Radio-Canada dont je vous cite quelques passages. Le chef de l'Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde, souligne l'importance de cette journée en parlant de réconciliation et de force collective de son peuple. Plusieurs activités et célébrations se sont déroulées aujourd'hui, mardi, un peu partout au Canada. Perry Bellegarde a invité tous les Canadiens à participer. Cette année marque le 20e anniversaire de la Journée nationale des Autochtones. C'est l'occasion d'apprendre à mieux se connaître. L'éducation et la sensibilisation favorisent la compréhension et l'action, a-t-il déclaré par voie de communiqué. Le chef de l'Assemblée des Premières Nations a mentionné également qu'il travaillera de pair avec les Canadiens pour faire respecter les acquis autochtones. Nous travaillerons avec tous les Canadiens pour faire progresser les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation et avec l'ensemble du Canada pour assurer l'adoption et la mise en œuvre complète dans les lois fédérales de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, a-t-il déclaré. James Dashuk, professeur associé au département d'histoire de l'Université de Regina, a expliqué que les relations entre les Canadiens et les peuples autochtones ont beaucoup évolué en 20 ans. En 1996, on venait juste de sortir de la crise d'Oka, a-t-il dit, et de la Commission royale sur les peuples autochtones. Mais depuis ce temps-là, les relations se sont améliorées. C'est une nouvelle ère avec du positif. Les choses ont beaucoup changé depuis la Commission de vérité et réconciliation, poursuit-il. J'ai les défis de faire quelque chose en tant qu'individu. Il y a beaucoup de bonne volonté au Canada. Les gens sont intéressés. Ce sont les propos de James Dashuk, professeur ou associé au département d'histoire de l'Université de Regina. Voilà, on va retourner en musique. Je vous propose d'écouter les Sœurs Boulay avec la pièce « Sonne des Chris ». On se retrouve de l'autre côté avec l'agenda culturel.
Je m'aime pas, c'est tout ça. bien. Peut-être que tout ira bien.
Les Sœurs Boulay dans le débrief, 16h26, nous sommes ensemble jusqu'à 17h. C'est le moment de regarder les options de sortie sur Victoria. Je commence par vous mentionner l'Assemblée générale annuelle de CILS qui se déroulera cette semaine, le 23 juin à 18h30. C'est la 14e Assemblée générale annuelle de la Société radio communautaire de Victoria. Vous y êtes invités, bien sûr, j'espère vous y voir. Nous serons tous présents, toute l'équipe de CILS, les animateurs et les membres de la direction. Je vous mentionne donc les infos à connaître pour cette AGA. C'est à l'école Victor Brodeur au 637 de la rue Ed à Esquimalt. Ça débute à 19h. Vous pouvez arriver sur place à 18h30. Donc, à ne pas manquer si la radio communautaire francophone vous tient à cœur. Voilà pour cette annonce d'intérêt public, donc le 23 juin. Au plaisir de vous voir. Je vous mentionne également cette option de sortie, cette activité du 24 juin de la Saint-Jean-Baptiste, cours de tango pour débutants en français avec des instructeurs montréalais qui nous visitent quelques jours sur Victoria. C'est au Café Casablanca. C'est donné par les instructeurs Mélanie Bérose et Gabriel L. Huracan. Ils seront au Café Casablanca. C'est à partir de 17h30 le 24 et ça dure jusqu'à 19h30 et ce sera suivi d'une démonstration si vous restez sur place, un milonga comme on l'appelle dans le langage d'initié du tango. Autrement, pour ce qui concerne les options de sortie ce soir, il y a bien sûr Cine Santa qui ce soir projettera le film Everybody Wants Some du réalisateur américain Richard Linklater. C'est à 19h et 21h20. Je vous avais parlé de ce film hier. En gros, si vous avez aimé Boyhood, vous aimerez sûrement ce film qui est une comédie dramatique de Richard Linklater. Ça se passe dans le milieu universitaire. Ce sont des étudiants au programme sport-études, si vous voulez, qui sont dans l'équipe de baseball et ce sont leurs tribulations lors de leur première année universitaire, donc sur le terrain en tant qu'athlète universitaire de baseball. On va retourner en musique. On va écouter la formation Nash avec la pièce Qui c'est cela?
Une pin-up, je ne paye pas de mine. Avec mes grosses fossettes, ma petite poitrine. Mais je ne sais pas pourquoi quand je souris aux mecs, ils veulent toujours m'emmener vers mieux dans leur famille. Et leurs femmes disent de moi, mais qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle a?
Qui c'est celle-là? Elle est complètement toquée, cette fille-là. Elle est complètement gaga. Elle a une grande tête, cette fille-là. Qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle a?
Ce n'est pas de ma faute à moi si les hommes mariés préfèrent sortir avec moi pour jouer à la poupée. Ils aiment mes cheveux bruns et mes yeux polissons même. Je crois que ce qu'ils préfèrent, c'est mon petit ventre rond. Et leur femme disait de moi, mais qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle a?
Et qui c'est celle-là? Complètement toquée, cette fille-là. Complètement gaga. Elle a une grande tête, cette fille-là. Qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle a? Et puis sa bagnole, les gars, ouais. Elle est vraiment bizarre, les gars. Mais qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle a?
Voyant que sur cette terre, tout n'était que vice. Et que pour faire des affaires, je manquais de malice. Je montais dans mon engin interplanétaire et je ne remis jamais les pieds sur la terre. Et les hommes disaient de moi, mais qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle a?
Oh, qui c'est celle-là? Oh, complètement toquée, cette fille-là. Elle est complètement gaga. Elle a une grande tête, cette fille-là. Et qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle a? Et puis sa bagnole, les gars.
Qu'est-ce qu'elle a?
formation Nash avec la pièce qui c'est celle-là dans le débrief 16h32. C'est le moment de d'entamer la revue de presse des éditoriaux. On a un texte en premier lieu de Yannick Dumont-Baron qui s'intitule « Trump veut-il perdre ?» Donc l'auteur se demande si Donald Trump veut finalement perdre ses élections. Il écrit « Il y a probablement quelques républicains qui se posent la question ces temps-ci. Leur candidat à la présidence n'a pas l'air d'un homme qui veut vraiment déménager au 1600 Pennsylvania Avenue. Soit la campagne de Donald Trump est encore trop désorganisée, soit le principal intéressé n'est justement pas, trois petits points, intéressé. » Alors, Yannick Dumont-Baron cherche à comprendre ce qui a bien pu frapper la campagne qui semble avoir perdu justement son élan. Il mentionne qu'il y reste peu d'argent dans les coffres de la campagne de Trump. Il mentionne bien sûr que son équipe, somme toute, est relativement petite. Son équipe de conseillers et de soutien est relativement petite en comparaison à celle de son adversaire. Yannick Dumont-Baron la qualifie même de « squelettique », entre guillemets. Yannick Dumont-Baron souligne aussi le nombre assez élevé de gaffes commises depuis que Trump a ravi l'investiture de son parti, le Parti républicain. Donc, il semble avoir vraiment commis plusieurs gaffes. Il est toujours, bien sûr, il a toujours le chic pour faire des déclarations à l'emporte-pièce, mais il semble avoir perdu un petit peu le contrôle, souligne-t-il en substance. Donc, c'est un texte paru sur le site de Radio-Canada. C'est une analyse signée Yannick Dumont-Baron. Ça s'intitule « Trump veut-il perdre ?» Autrement, oui, ce qu'on peut dire à ce sujet, c'est que Jeb Bush et d'autres républicains croient que Trump est en réalité un cheval de Troie, c'est-à-dire que il se serait porté candidat à la présidence dans le but de diviser, pour ne pas dire déchirer, le parti républicain et ainsi favoriser son ami Hillary Clinton et son ami Bill Clinton, donc avec qui Trump serait de mèche selon ses théories, bien sûr, et il obtiendrait bien sûr en retour, une fois que Clinton aurait gagné la Maison-Blanche, des faveurs politiques importantes. Donc c'est une théorie qui a été soulevée par Jeb Bush, qui n'est pas le dernier venu dans le Parti républicain. Il était lui-même dans la course à l'investiture du parti jusqu'à mars ou avril. Il a finalement abandonné parce que sa campagne n'allait nulle part. C'est le frère de l'ancien président et le fils de George Walker Bush. Alors, et cette théorie est reprise par de nombreux républicains et elle est étayée par certains faits. Les liens d'amitié entre les Clinton et Trump sont connus. Les époux Clinton étaient au mariage de Trump en 2005. Il y a différents faits comme ça qui semblent indiquer. Il y a aussi eu un certain nombre de liens financiers entre les deux clans. Alors, c'est à voir. En tout cas, la campagne de Trump ne va pas très bien ces derniers jours. Si vous voulez donc avoir un éclairage là-dessus, il y a ce texte de Yannick Dumont-Baron intitulé « Trump veut-il perdre ?» Autrement, je vous signale un texte paru dans le média indépendant de l'île de Vancouver de Taï. On trouve toujours des textes fort éclairants sur les grands enjeux environnementaux et sociaux dans ce média indépendant. C'est signé par le chroniqueur Bill Tilleman. C'est un ancien stratège du NPD. Il est maintenant consultant et il signe une chronique régulière dans The Taï. Et il appelle les gens à ouvrir les yeux à propos de la bulle immobilière qui sévit actuellement sur Vancouver et à Victoria. Et c'est ce qu'il appelle le syndrome chinois. Il soutient dans son texte que le syndrome chinois, en guillemets, paralyse les politiciens tant au municipal qu'au provincial et au fédéral. Et il déplore cette réalité. Donc, appelons ça le syndrome chinois, écrit-il. C'est une regrettable paralysie qui touche les politiques canadiens, les empêchant d'aborder avec franchise la situation du marché de l'immobilier britanno-colombien. La réalité, écrit-il, c'est que des capitaux inondent le marché vancouverois. La Banque nationale, estime que les acheteurs chinois ont dépensé 12,7 milliards de dollars à Vancouver pour la seule année de 2015, ce qui représente un tiers du total des ventes immobilières dans ce marché. Citant un article paru récemment dans le New York Times, l'auteur donc de cette chronique, Bill Tilleman, indique que ces sommes participent d'un mouvement d'exode des capitaux, tandis que l'économie chinoise continue d'afficher des signes de faiblesse inquiétants. Donc, ces capitaux trouvent refuge dans l'immobilier vancouverois et ça crée les situations de bulle qu'on connaît. L'auteur cite une déclaration de Tom Davidoff faite récemment à une radio locale de la région de Vancouver. Il faut voir que les prix des maisons sont en hausse de 40% dans la dernière année à Vancouver. Cette année, c'est la Chine. Qui sait d'où proviendront les acheteurs la prochaine fois? Vancouver reste très attrayante pour les riches désirant un environnement à taux d'imposition bas, à cadre réglementaire ouvert, un environnement reconnu pour son milieu urbain calme et sécuritaire, et un environnement où la beauté naturelle de la région est assez convaincante. Donc, les politiciens, continue le chroniqueur, tant au niveau fédéral que provincial et municipal, ont tous peur de dire ce que tout le monde sait. Nous laissons des millionnaires chinois et d'autres investisseurs faire de Vancouver un marché inabordable, pas seulement à Vancouver, mais également à Victoria et ailleurs également. Ce n'est pas raciste de parler d'investissement étranger chez nous et de l'influence sur le prix des maisons, souligne-t-il plusieurs fois dans ce texte. Il écrit plus loin, non seulement les prix des maisons sont hors de la portée des citoyens de la Colombie-Britannique, mais le marché de l'immobilier, dans son état actuel, est en état de surchauffe. Si la bulle éclate, dit-il, ce seront ces mêmes citoyens, pas les investisseurs étrangers, qui devront payer les pots cassés. Donc, je vous recommande ce texte paru dans The Taille, c'est dans la section Opinion du portail. C'est signé Bill Tilleman. Ça concerne la bulle immobilière à Vancouver. Je passe ensuite au sujet du service public et en particulier à un article qui concerne Radio-Canada. Alain Saunier, qui est l'ancien directeur général de l'information à Radio-Canada, il est maintenant professeur à l'Université de Montréal. Il se demande si Radio-Canada va enfin connaître une embellie. On sait que le service public a été, on peut le dire entre guillemets, martyrisé sous le gouvernement Harper entre 2006 et 2015. Alors, Alain Saunier, qui est l'ancien directeur général de l'info à Radio-Can, écrit une lettre au Devoir dans laquelle il signale son espoir de voir le mandat d'Hubert Lacroix, qui était l'homme de Harper, se terminer bientôt. Il souhaite que de nouvelles nominations soient effectuées, donc tant au conseil que dans la société d'État. Il espère, en terminant dans sa lettre envoyée au Devoir, que Hubert Lacroix ne briguera pas un second mandat de 8 ans. Donc, c'est à lire, c'est dans les pages éditoriales du Devoir. C'est une lettre ouverte d'Alain Saunier, l'ancien directeur général de l'information à Radio-Canada. Plus loin dans cette revue de presse, toujours dans les pages du Devoir, on a un texte de Catherine Richardson et c'est en résonance avec la Journée nationale des Autochtones en ce 21 juin. Elle parle des femmes autochtones tuées ou disparues. C'est un dossier qui est enfin à l'avant-plan, un dossier que rejetait le gouvernement Harper pendant de nombreuses années, ne souhaitant pas s'y consacrer, ne souhaitant pas y accorder l'attention que cette situation méritait. Donc, Catherine Richardson, qui est prof en travail social à l'Université de Montréal, signe un texte touchant sur la justice et la sécurité pour les femmes autochtones. C'est dans les pages du Devoir. Je vous encourage à aller consulter ce texte de Catherine Richardson. Elle a, en terminant, signé un ouvrage récemment qui s'appelle Belonging Métis. Elle est l'auteur de cet ouvrage. Autrement, je tiens à vous signaler cet entretien qu'a accordé Julian Assange, le dirigeant, le fondateur de WikiLeaks aux médias de gauche Libération.fr. C'est un entretien qui a été publié le 17 juin. Donc, on sait que Julian Assange est retranché dans l'ambassade de l'Équateur à Londres depuis maintenant 4 ans. C'est à travers lui qu'on a appris de nombreuses révélations dans différents dossiers de géopolitique, donc des révélations extrêmement importantes qui ont permis de faire progresser le droit de l'information et qui ont permis de conscientiser les populations civiles à propos de différentes décisions des gouvernements occidentaux surtout. On se souviendra des câbles WikiLeaks de 2010. C'était l'un des plus importants leaks, entre guillemets. Mais WikiLeaks a poursuivi son chemin au fil des années et continue d'être très actif. Ils ont joué un rôle dans le dossier Edward Snowden aussi, quand Edward Snowden s'est rendu à Hong Kong et qu'il a pris contact avec le journaliste Glenn Greenwald et qu'il a révélé tout ce qu'on sait aujourd'hui à propos des systèmes de surveillance mis en place aux États-Unis, mais dans d'autres pays aussi. Donc, je vous encourage à aller consulter cet entretien qu'a accordé Julian Assange aux médias indépendants Libération. C'est en date du 17 juin. Vous le trouverez facilement dans la section idée du site libération.fr. C'est le moment d'aller à l'interview sans plus tarder. On a aujourd'hui Mélanie Bérose et Gabrielle L. Huracan. On ne parle que de tango dans le prochain quart d'heure. Si ça vous intéresse, accrochez-vous bien. Et bien sûr, je vous mentionne que Mélanie Bérose et Gabrielle L. Huracan donneront un cours de tango à la Saint-Jean-Baptiste ce vendredi de 17h30 à 19h30 au café. Casablanca, oui, ici à Victoria. Donc, avis aux intéressés. On écoute cette entrevue dans quelques instants. À tout de suite. De retour dans l'émission Le Débrief, votre rendez-vous info de fin de journée à l'antenne de CILS FM 107,9. C'est le moment de passer à l'interview du jour. Je suis en compagnie de Mélanie Bérose et de Gabrielle L. Huracan, des experts en tango qui nous rendent visite dans la région du Grand Victoria pour nous faire partager leur passion du tango. Ils vont procéder à une démonstration et un atelier de tango très prochainement au Café Casablanca à Victoria. Bonjour à vous deux.
Allô?
Allô, bonjour.
Allô. Donc, vous allez faire quoi? Vous allez donner les rudiments du tango en français à des membres de la communauté francophone de Victoria, donc le 24 juin, en pleine Saint-Jean-Baptiste, au Café Casablanca. Est-ce que vous avez un plan de match? Qu'est-ce que vous allez enseigner exactement?
Oui, ben c'est sûr qu'on invite les gens parce que c'est un atelier de 2 heures qu'on appelle un bootcamp. En fait, les gens qui ne connaissent pas du tout le tango ou les gens qui veulent rafraîchir leur tango, on les invite à venir et puis on donne un cours complètement pour débutants. Alors, si tu n'as jamais touché au tango, tu n'as jamais jamais un cours dans ta vie, c'est vraiment le moment. Ça va être tous des débutants. C'est sûr que si les gens peuvent venir avec un partenaire,
que ce soit
gars, fille, fille, gars, deux filles, on s'en fiche, ça revient tout au même.
Oui.
C'est l'idéal, mais sinon, ils peuvent venir aussi tout simplement sans partenaire. Et puis, tu vois des gens aussi qui sont sans partenaire, puis on fait des échanges tout le long de la classe.
OK.
C'est aussi, c'est bien si les gens parfois peuvent venir en groupe d'amis. Souvent, ça fait des belles ambiances dans les cours, oui.
Oui, ça crée des connexions, puis plus d'effervescence, d'enthousiasme.
Oui, ben en fait, le tango, c'est une danse quand même relativement intime parce qu'on est
oui.
très près. En fait, mm-hmm. par définition, c'est un câlin qui se déplace finalement.
Ah.
Donc, oui, quand les gens ont déjà une connaissance de l'autre, déjà, souvent, ça peut faciliter les choses.
D'accord. Vous en faites depuis combien d'années du tango et quels sont vos... comme vous n'êtes pas des athlètes, je ne peux pas vous demander avez-vous remporté ceci, avez-vous gagné cela, mais qu'est-ce qui a échelonné, jalonné votre carrière de chorégraphe de tango?
Ben moi, j'ai commencé il y a 8 ans, le tango. Depuis le premier cours que j'ai fait, j'ai jamais arrêté. J'ai pris beaucoup, beaucoup de classes avec des professeurs argentins qui sont passés à Montréal. J'ai rencontré Gabriel qui, lui, dansait déjà. On est allé en Argentine étudier là-bas. On s'investit beaucoup, beaucoup. On danse beaucoup. À Montréal, on a la chance de sortir tous les soirs. Il y a beaucoup de soirées de tango, même les après-midi. Alors, quelqu'un qui veut vraiment s'améliorer rapidement, qui a le temps et la patience de s'investir là-dedans, c'est possible. Alors, nous, je te dirais qu'on a, mettant comme c'est dans le dictionnaire, je peux dire, on a geeké ça.
Oui, oui.
On a vraiment travaillé fort notre tango. Et puis, on fait les festivals au Canada, aux États-Unis, Porto Rico, Martinique. On se promène beaucoup là, pour un jeune couple de danseurs de tango. On travaille fort, puis on est content. Ça va très bien.
Donc, c'est votre occupation principale, le tango? C'est votre vie?
Dans mon cas, oui. Mélanie est aussi musicienne, mais oui, moi, c'est tout ce que je fais, oui.
D'accord.
Et on est béni des dieux de pouvoir partager notre passion pour vivre, oui.
C'est passionnant, c'est fascinant. Qu'est-ce que ça prend pour justement atteindre le niveau que vous avez atteint et vivre du tango?
Mon Dieu, énormément de détermination, beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience pour en vivre.
Hein, oui.
Parce qu'on s'entend, le tango, c'est une danse sociale. La plupart des gens, c'est un passe-temps, un hobby, et mon Dieu, ça demande pas autant. Mais pour devenir professionnel, effectivement, il faut s'investir à 100%. Il oui.
faut avoir des prédispositions athlétiques, peut-être, ou un...
Je te dirais, non, absolument pas du tout. Il faut juste être, comme dans n'importe quoi, être complètement passionné. Puis quand tu es passionné de quelque chose, tu as envie de faire ça tous les jours, de te donner à fond, de toujours t'améliorer. C'est juste ça qu'il faut. Comme dans tous les arts, comme dans tout aspect de notre vie dans lequel on veut vraiment devenir meilleur.
Oui, et au tango, il y a une espèce de mythe comme de quoi il faut être très athlétique. C'est très, très, très faux. En général, en fait, même les filles ont tendance à avoir une préférence pour les hommes un peu plus enveloppés, étant donné qu'ils sont tout simplement généralement plus confortables au contact.
Oui.
Donc, voilà.
Moins intimidant, peut-être? Moins intimidant ou plus confortable?
Non, c'est pas que c'est moins intimidant, c'est que vraiment, il n'y a pas besoin d'être athlétique ou avoir tel genre de forme de corps ou d'avoir un super bon système cardiaque, ça n'a rien à voir. C'est vraiment, tout est dans le cœur, mm-hmm. et puis tout est dans la connexion musicale et mm-hmm. avec l'autre. C'est complètement un autre monde. Et puis, la communauté de tango, qu'est-ce que je trouve qui est vraiment chouette, c'est que c'est une famille. Ensuite, quand tu voyages de ville en ville, de pays en pays, peu importe où tu ailles, le tango argentin, c'est le tango argentin. Tout le monde le danse de la même façon.
Mm-hmm.
Et puis, quand tu vas dans un autre pays, moi, je suis musicienne, j'arrive en Chine avec mes petits souliers de tango après mon concert. Et puis, je trouve des gens qui m'accueillent. Peu importe quel soit le niveau de la
c'est
personne
mondial.
Qui arrive. C'est une famille qui t'accueille à chaque fois. Donc, t'es jamais seule. C'est une danse de porteño. C'est une danse qui s'est développée avec des gens qui sont immigrés en Argentine, qui pensaient trouver un Eldorado, qui se sont ramassés tout seuls. Alors, C'est une danse où est-ce qu'on rencontre l'autre, c'est une danse où est-ce que même si on n'est pas un artiste dans la vie, on peut avoir une vie artistique. C'est une danse de rencontre de soi, de l'autre, c'est vraiment chouette.
Il y a, vous parliez de mythe, il y a un autre mythe qui a la vie dure, c'est celui du machisme. Est-ce que le tango est machiste? Est-ce que le tango est macho? Est-ce que il a changé avec le temps?
À une époque, il l'a été. Oui. Beaucoup même, mais évidemment, comme n'importe quoi, ça a évolué. Et de nos jours, en fait, non, plus du tout. Même que la plus grande beauté, en fait, au tango, selon mon point de vue, quand je regarde les autres danseurs, ben, remarque, nous aussi, mais le pouvoir de la femme au tango est d'une beauté extraordinaire.
Donc, c'est une lecture superficielle, finalement, qui de la part de gens qui connaissent pas ou qui...
Très, très. Et évidemment, dans les films, le tango qui nous est présenté, c'est une version souvent américanisée de ballroom, et qui n'est pas le tango argentin, qui est en fait une improvisation, une danse sociale. Donc, qui est beaucoup moins saccadé, beaucoup plus fluide, beaucoup plus confortable, beaucoup moins quétaine aussi. Faut pas avoir peur de le dire, au contraire.
Oui, ok. Et vous identifiez un courant particulier dans le tango? Est-ce que vous êtes dans un tango indie, indépendant, un tango alternatif, ou vous êtes traditionnaliste? Ou...
Comme dans toutes les danses, il y a énormément de différents styles au tango. Par contre, la technique dans tous les styles va être la même. On dit souvent « el tango es el tango ». Oui, qu'on danse nuevo, milonguero, salón, souvent les techniques sont similaires. Les façons de l'interpréter, les façons de bouger, de faire, va déterminer le style qu'on se donne. Mais non. C'est une improvisation aussi, hein. Le mythe de la chorégraphie. Il y a des professionnels qui chorégraphient toujours. D'autres vont toujours improviser. Certains font les deux. Nous, on a choisi d'improviser en tout temps.
Wow, d'accord. Donc, il y a vraiment une activité neuronale intense, sûrement, parce qu'il faut justement composer à mesure.
Au début, oui. Ensuite, ça devient comme un réflexe.
OK, d'accord. Intéressant. Donc, on, en tant que spectateur, on peut être conscient, si on connaît le tango, que le danseur est en train, justement, de faire une composition en temps réel. Est-ce qu'on voit un petit peu, on est capable de savourer ça?
Bien sûr, faut avoir l'œil aiguisé, bien sûr. La plupart des gens comprennent pas comment on fait pour se comprendre sans se parler, mais c'est un langage, c'est un vocabulaire qu'on utilise et on fait des phrases, des paragraphes. Voilà.
Intéressant, intéressant. Et à quoi ressemble votre année 2015? Vous êtes ici à Victoria aujourd'hui dans le cadre de la Saint-Jean, mais est-ce que vous êtes toujours en tournée ou est-ce que vous voyagez beaucoup? C'est principalement Montréal, votre foyer d'activité?
Ben, notre foyer de base est à Montréal. En janvier, on a enseigné, on fait une tournée Martinique, on est allé à Porto Rico, Boston, Cleveland, Pittsburgh. On se promène quand même pas mal. On va peut-être partir 1, 2, 3 mois. Moi, comme je suis musicienne, je reviens à Montréal aussi. Je reste pas pendant les 3 mois. Alors, j'arrive à faire les deux. Et puis, cet été, on va être plus à Montréal quand on va revenir de tournée de l'Ouest du Canada. Puis ensuite, on repart en septembre. On construit ça bien. Et puis, on est dans un festival à Ottawa au début juillet.
OK.
Et puis, ben, ça continue. Oui, c'est quand même assez bien rempli.
Formidable. Donc, on est à quelques jours seulement de l'activité en question. Est-ce que les gens qui sont déjà enthousiastes puis qui l'inscrivent à leur agenda peuvent se préparer en faisant une petite lecture ou en consultant un YouTube peut-être? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour se préparer? Tenue vestimentaire?
Tenue vestimentaire, en fait, juste être propre et confortable, hein, une hygiène, parce qu'on est très, très, très près, c'est un câlin. Donc, c'est important, évidemment, d'être propre et bien habillé. Maintenant, bien habillé, ça veut pas nécessairement dire de se mettre en grand veston complet, tox et compagnie. Simplement, une chemise propre, un pantalon, voilà. Je recommanderais une semelle de cuir pour les hommes ou de Suède. Sinon, c'est pas particulièrement nécessaire, pas à ce niveau-là, pas pour les débutants. Par contre, pour les filles...
Les filles, c'est sûr qu'au tango, en fait, on porte le talon haut parce que les filles, on est toujours en train de pivoter. Alors, ça nous permet d'être sur la métatarse, sur la pointe des pieds, sans jamais forcer parce qu'on se repose sur nos talons. Mais les filles qui ont vraiment pas envie de le faire en talon haut ou qui ont pas de talon haut, vous pouvez faire un running shoe, vous pouvez le faire en ballerine, il y a vraiment, vraiment pas de problème.
Formidable.
Aussi, évidemment, au niveau musical, vous pourriez toujours aller voir, par exemple, taper Juan D'Arienzo sur YouTube. Ça va vous donner une idée de la musique.
Est-ce que vous pouvez l'épeler rapidement?
Bien sûr. Juan comme J-U-A-N, espace, D majuscule, apostrophe, A majuscule, R-I-E-N-Z-O.
D'accord. Et ça va nous renseigner sur...
Sur la musique, en fait.
C'est
un des grands,
oui.
grands compositeurs. On l'appelait El Rey del Compás, le roi du rythme.
Oui.
Mais évidemment, il y en a plein d'autres. Et on pourrait parler d'Osvaldo Pugliese, de Carlos Di Sarli, Rodolfo Biaggi, Riccardo Tanturi, Astor Piazzolla, qui
oui.
est considéré, en fait, mais beaucoup plus Nuevo Tango. Mm-hmm. Donc, c'est une autre école. C'est pas du tout les mêmes barèmes au niveau de la construction musicale. Mélanie pourrait mieux répondre à ce niveau-là.
D'accord. D'accord. Ben, on va rappeler les éléments, les infos vitales. Donc, c'est le 24 juin à la Saint-Jean. Donc, une Saint-Jean en français avec vous pour apprendre le tango. Donc, ça a une dimension internationale aussi. C'est intéressant. Ça met un peu de piquant dans la soirée du 24 juin. C'est au Café Casablanca à 17h30 jusqu'à 19h30. Et vous me mentionniez hors d'antenne tout à l'heure qu'il y avait une activité après même, en soirée, pour ceux qui veulent rester.
Oui, pour ceux qui veulent rester, manger là après le cours qui est de 5h30 à 7h30, il va y avoir une soirée de danse, une milonga. J'encourage vraiment les gens à venir, puis même ceux qui viennent pas prendre la classe, à venir voir ça a l'air de quoi une soirée de tango. Parce que souvent, on s'imagine toutes les scènes qu'on a vues américaines, comme Gabriel Santo disait, de ballroom, mais ça n'a rien à voir. C'est vraiment le tango traditionnel argentin, c'est une danse sociale. Venez voir ça, c'est vraiment quelque chose. Et c'est comme tout un monde underground qui est pas accessible à personne si on ne va pas à sa rencontre. Et c'est un monde qui est dans toutes les villes. C'est vraiment chouette. Vraiment, venez comme vous êtes confortable. Essayez pas de vous habiller en tango, là. Ça n'existe pas. Chaque personne a son style. Chaque personne est bien. Et puis, encore une fois, que vous ayez un partenaire, pas de partenaire, vous pouvez venir avec votre chum de fille, votre chum de gars, deux gars, deux filles, un gars, une fille, whatever. C'est vraiment une danse où est-ce qu'on change de partenaire souvent aussi.
OK, c'est noté.
Lors de la soirée aussi, on va faire une performance. Donc, on va être en démonstration oui. lors de la soirée. On fait toujours 3-4 pièces. C'est toujours improvisé. Donc, ça donne vraiment aussi un aperçu à un niveau disons, plus professionnel de comment la danse, en fait, de ce que la danse a l'air à ce niveau-là.
Formidable. Donc, pour avoir les infos, vous aviez peut-être pas de quoi noter là à l'instant quand on a indiqué l'heure, le lieu, tout ça. Vous vous rendez sur francocentre.com où se trouve bien sûr le site de la Société francophone de Victoria. Il y a dans la section agenda tout le détail de cette activité du 24 juin au Café Casablanca, soirée spéciale tango. Mélanie Béroz, Gabriel L. Huracan, grand merci d'être venu à l'émission et excellente soirée du 24. Bonne Saint-Jean.
Bonne Saint-Jean!
Bonne Saint-Jean à tous.
Merci.
C'était Mélanie Béroz et Gabriel L. Huracan. Je mentionne leur site web en terminant melgabtango.com. Melgabtango.com. Alors, à voir à Victoria, 24 juin, c'est une invitation. Le danseur de tango émérite, très accompli. C'est organisé par Tracy Peaver, je le mentionne, qu'on avait reçu un petit peu plus tôt, il y a quelques semaines, dans l'émission Le Débrief. Elle nous avait déjà, elle avait déjà planté le décor à propos de cette activité du 24 juin. C'est déjà tout pour Le Débrief. On va se retrouver demain à la même heure. Passez une excellente soirée. Dans quelques instants, allô la planète.